sujet, toujours autour de la tapisserie, mais je ne vais pas vous les dévoiler maintenant. Avant de commencer la séance de ce jour, j'aurais voulu peut-être vous demander quelles étaient, suite à la séance de la semaine dernière, quelles étaient à vos yeux les caractéristiques, les deux, trois caractéristiques essentielles, qui concernent la production de tapisserie en France au XVIIe siècle. C'était décidément le sujet de la semaine dernière. Et si vous aviez résumé en deux, trois phrases, pour des gens qui n'auraient pas été là, par exemple, qu'est-ce que vous auriez à dire concernant la question de la tapisserie, de la production de tapisserie en France au XVIIe siècle? Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi?
Elle est très proche de la peinture.
Très proche de la peinture, ok.
Oui, parce que les cartons sont faits par des peintres.
Les cartons sont faits par des peintres, donc ce qui est d'ailleurs était le cas avant, mais c'est peut-être encore plus vrai à cette époque. Il y a quelquefois une sorte d'interaction, oui.
C'est des ateliers d'État.
Il y a des ateliers.
L'État, les gobelins, c'est gobelins.
Oui. C'est un état. Des ateliers d'État, il y a les gobelins, la plein d'autres.
Non. C'est la création de.
Il y avait déjà Aubusson,
par Louis XIV.
Pardon.
Ah ben, au XVIIe, il y avait déjà Aubusson.
Bien sûr, absolument. Mais effectivement, le gros atelier, pas seulement en France, en Europe au XVIIe siècle, c'est les gobelins. Gobelin qui va être une sorte de phénomène européen, qui entre la deuxième moitié du XVIIe et la fin du XVIIIe est le gros producteur de tapisserie européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, y compris en France, effectivement. Mais ça veut dire que les Gobelins, créés par
Colbert.
Oui, mais
Colbert.
Oui, mais à l'époque de 14, vraiment les Gobelins, c'est le grand atelier européen du temps. Et c'est bien entendu.
Au XVIIe, Aubusson, il n'était pas encore manufacture royale, je crois.
Non. On aura l'occasion d'en dire un aujourd'hui. Aubusson, était entre les mains de personnes privées. Ouais. Alors, je ne sais plus à quel moment ça a basculé.
C'est Colbert, je crois qu'il l'a passé aux manufactures.
Je ne sais pas. C'est Colbert, peut-être. C'est possible. C'est possible. À la fois Aubusson et Felletin, d'ailleurs. Mais au départ, Aubusson est une fabrique qui appartient à des gens, des tisserands, mais qui effectivement va prendre un certain essor, on en dira un mot. Et au-delà de ça, au-delà de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la tapisserie au XVIIe siècle est très liée à l'évolution, ou du moins à la peinture en général, la prééminence d'une fabrique royale, une fabrique d'État, autrement dit, qui est vraiment un phénomène, pas seulement français, mais européen, les Gobelins. Qu'est-ce qu'il y aura encore d'autre à dire?
La dimension des réalisations.
Oui, c'est-à-dire? C'est grand. OK. Donc, effectivement, des réalisations importantes, mais au niveau des sujets, qu'est-ce que vous auriez à dire?
La mise en avant de Louis XIV.
Alors, peut-être, effectivement, la première chose, c'est la mise en avant de Louis XIV, du roi. À travers quel genre de tapisserie, par exemple? Ou quel genre de tenture?
Les batailles.
Il y a vraiment une mise en scène, quoi.
Ne serait-ce que l'inauguration de l'atelier des Gobelins par Louis XIV.
Et qui appartient à quelle tenture?
La tenture du Louvre.
Alors, elle a un nom qui est la tenture Histoire du Roi. Donc, il y a cette tenture-là. Une des tapisseries présente effectivement Louis XIV qui visite les Gobelins en octobre 67, si ma mémoire est bonne. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet dans les tapisseries des Gobelins?
Il y avait Alexandre le Grand Goldé, qui fait référence à un personnage
l'Antiquité. De l'Antiquité.
Voilà, référence à un personnage de l'Antiquité. Quel genre de personnage? Des très grands personnages.
Historiques ou mythologiques.
Et pourquoi se référer à Alexandre le Grand? Pourquoi Alexandre le Grand,
il peut se comparer.
Voilà. L'idée était effectivement, dans les productions des Gobelins à cette époque-là, par exemple, la production de l'histoire d'Alexandre, d'après les cartons de
Le Brun
qui est qui en même temps?
Le patron
de la manufacture. Le patron des Gobelins, c'est Le Brun. Donc Le Brun n'est pas simplement le grand ordonnateur de Versailles, etc., celui qui donne le « là » sur les productions, c'est le directeur de la manufacture. C'est-à-dire qu'il est directeur à la fois technique, financier, artistique, etc., il fait tout. Et effectivement, le brun, fait les cartons pour l'histoire d'Alexandre. Alexandre qui effectivement est choisi parce que quelque part, c'est une manière mimétique d'évoquer Louis XIV. Oui. On n'avait pas évoqué je ne sais quelle obscure figure. Il faut évoquer un vainqueur, hein, quelqu'un qui met le monde à ses pieds. D'autres exemples encore de ces tapisseries des Gobelins au XVIIe siècle.
Il y avait des saisons aussi.
Des saisons, est-ce que c'était seulement les saisons?
Dans les jardins.
Les jardins, mais autre chose, je ne sais pas encore.
Les trois enfants dans le jardin.
Alors, il y avait ça, il y avait effectivement trois enfants dans le jardin, mais vous disiez
les signes
du feu. Alors, oui, mais qui était lié à la représentation de quelque chose de bien particulier. C'était les résidences royales. Il y avait Versailles, Vincennes, le Louvre, etc. Donc le roi, le roi, le roi. On monte le roi dans sa vie, on monte le roi dans ses résidences, on monte le roi dans les grandes figures qui peuvent lui être associées. Le roi toujours. Alors il y a effectivement des tapisseries, on a vu plutôt vers la fin d'ailleurs, hein, qui évoquent des sujets plus aimables, les enfants jardiniers par exemple. Hein. À la fin également, cette chronologie, qu'est-ce qu'on avait pu voir? Les enfants jardiniers, il y a autre chose.
La renommée,
Pardon.
Les animaux exotiques.
Ah, alors ça, c'était dans les résidences royales. Rappelez-vous, sur le devant des résidences royales, on avait remarqué qu'il y avait des animaux
exotiques. Oui, animaux.
Ça, c'était donc sur le devant des tentures des résidences royales, effectivement, oui. Mais comme grand thème de généraux hein, de tapisserie, qu'est-ce qu'on a remarqué vers la fin?
Il y avait la tapisserie avec la
renommée.
Il y avait la corne d'abondance.
Il y avait effectivement les portières de la renommée, vous rappelez. Alors, toujours avec ce vocabulaire, à la gloire de Louis XIV, les armes de France, la renommée avec sa trompe, etc. Donc, effectivement, on tape sur le clou.
Martel. Oui.
Martel, cette idée d'un Louis XIV très important, etc.
La théâtralisation.
Pardon. Ah oui, la théâtralisation est un élément important, mais à la fin, la chronologie avait quand même quelque chose de particulier, auquel d'ailleurs la
tête. Un espèce de bateau, là, non?
Un espèce de bateau,
effectivement. Oui, avec les tritons, etc.
Oui, mais quelle était. C'est juste. Mais quelle était derrière ça? Quelle était l'évolution, finalement, qui se faisait jour dans ces quelques tapisseries qu'on a vues à la fin, dont celle du bateau, entre guillemets?
Oui, mais il y avait une mythologie. Le brun qui était le cartonnier. Il y avait un changement de peintre.
Alors, il y avait effectivement un changement de peintre, donc le brun étant mort, il y a eu effectivement d'autres peintres qui se sont succédés à la tête de la préfecture, de Mignard, par exemple. Hein. Ouais.
Et on représente moins le roi.
Voilà. On note qu'à la fin, effectivement, le roi ne devient plus l'élément premier, essentiel, en tout cas pas l'élément permanent. Hein. Il est toujours derrière, quelque part. Mais à la fin de cette chronologie, on remarquait que les sujets n'étaient plus des sujets liés absolument à l'image du roi ou à des comparaisons avec de grandes figures. Les sujets, à la fin de cette chronologie, en tirant vers la fin du XVIIe, début du XVIIIe, hein, allaient vers quel genre de sujet d'ailleurs ?
Soit mythologique.
Mythologique ? Mais de la mythologie, quel genre de mythologie ?
Oui, mais légère.
Sorte de mythologie légère. Hein. Donc pas de la mythologie lourde avec, je sais pas quoi, un percé qui vous tue Méduse. Non. Une mythologie légère. Avec quoi, par exemple, avez-vous une des tapisseries que je vais montrer ?
Psyché et
par exemple, Psyché et Cupidon, enfin et Eros. Cupidon, ouais. Oui. Ou encore, rappelez-vous, avec un char.
Oui, il y avait Vénus.
Alors, il y avait effectivement sur une espèce de grand bateau le triomphe de Vénus. Oui. Et puis il y avait également Bacchus et Ariane. Donc des choses plus légères, évoquant la mythologie, entre Alexandre qui rentre à Babylone et puis Bacchus et Ariane, il y a une différence, si vous voulez. Hein. Eh bien, on remarquait dans cette chronologie-là l'évolution de la dynastie. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe au XVIIIe siècle. Quel est l'évolution de la tapisserie en France au XVIIIe siècle.
Donc c'est quand en France?
Oui, alors, je souligne que d'abord, il y aura une séance la fois prochaine, où là, peut-être qu'on parlera d'autre chose, je ne veux pas vous dire qu'on parlera, autrement c'est pas du jeu, hein, voilà. Mais je souligne encore que le grand centre européen de la tapisserie à l'époque, c'est les Gobelins. Et les Gobelins ne sont pas les seuls, hein, mais nous allons voir d'ailleurs dès aujourd'hui, hein, il y en a d'autres en France, mais vraiment, on est là en France quand même avec un peu l'épicentre européen de la tapisserie. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'en France qu'on en fait, Je veux dire, quand même, c'est en France qu'on a, j'allais dire, le meilleur de la production de TGV, en quantité, ça c'est sûr, et en qualité, ça n'est pas faux non plus. Voilà, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres centres en France ou d'autres centres hors de France qui n'ont pas cet intérêt. On en parlera la fois prochaine. Hein. Mais la France reste quand même, et avec les Gobelins surtout, le grand centre de production. Alors, aujourd'hui encore, on va regarder une vingtaine de tapisseries, puis essayer de se dépatouiller avec ça. Et voir ce que ça représente, quelles sont les inflexions, les évolutions que l'on voit, aussi bien sur la forme que sur le fond. Alors, on commence par celle-là.
Il n'y a pas de cadre, là.
Non. Alors, pourquoi ?
Il a été enlevé, non ?
Voilà. Peut-être que le cadre a été enlevé. On a vu déjà, antérieurement, qu'il arrivait que les tapisseries étaient, pour des raisons d'emplacement, hein, étaient coupées. Là, le cadre, je me suis fait la même réflexion, hein. Le cadre n'y est pas. Je crois que ça vient du fait que la tapisserie a été coupée.
Ce sont les mêmes couleurs.
Ce sont les mêmes couleurs.
Beaucoup
de
grisailles.
Beaucoup de personnages. C'est une tapisserie un peu en grisaille. Alors, méfions-nous de ça, ça peut être des évolutions des couleurs. Hein. Les tapisseries qui ont été beaucoup exposées peuvent virer vraiment. Je ne suis pas sûr qu'on ait là la polychromie qui soit celle de la tapisserie. Hein. Ça, il faut se méfier. C'est compliqué.
On est toujours un petit peu dans le style de la mise en avant de l'Antiquité, parce que quand on voit le personnage, la façon dont il est vêtu,
le sphinx.
Et le sphinx, on se retrouve.
C'est pas
oui,
on... la même.
Alors, on est effectivement dans une tapisserie qui évoque l'Antiquité, une mise en avant de l'Antiquité, absolument.
On est dans un port.
Dans un port.
Il y a un bateau.
Qu'on amarre, là, parce qu'il y a un
bateau. Oui.
Donc, c'est là une arrivée en bateau.
Une arrivée en bateau. Qui est-ce qui arrive ?
La dame
arrive.
Et elle est accueillie.
Et elle est accueillie par
Le monsieur.
Un monsieur qui accueille une dame. Une dame qui...
Il y a un casque.
Il y en a un casque. Le monsieur a un casque. Ça vous l'est.
Ouais. Cléopâtre.
Cléopâtre. Ah, Cléopâtre, c'est une possibilité.
Il a une toge à la robe.
Donc on aurait à droite, à gauche, Cléopâtre. Et Cléopâtre, si c'est Cléopâtre, elle rencontre qui ? Elle rencontre Marc-Antoine. Okay.
Marc-Antoine.
Vous avez dit quoi ?
Marc-Aurèle.
Vous avez été Marc Aurèle, c'est ça ? Bon, c'est un petit dérapage. Hein. C'est toujours un entre tout. Hein.
Voilà. J'ai fourché.
Oui, oui. Qui rencontre Marc-Antoine. Ok ? Bien. Pourquoi d'ailleurs Cléopâtre rencontre Marc-Antoine ?
Elle se retrouve.
Il faut qu'elle sauve son
Égyptienne.
Elle a besoin de
ses fesses.
Entre autres. Elle est quand même en danger à ce moment-là. Son pays est menacé et elle se trouve des alliés.
C'est ça. Donc c'est en fait l'idée d'une alliance entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Hein. Marc-Antoine qui en fait symbolise quoi ?
La puissance de Rome.
Oui, la puissance de Rome et Cléopâtre.
L'Égypte.
C'est la reine d'Égypte. Ok. On a là une rencontre qui est un acte politique, Cléopâtre, qui se range, on va dire qui s'allie avec une personnalité qui évoque l'autorité romaine. Okay ? Est-ce que c'est d'ailleurs le seul élément qui transparaît dans cette tapisserie, dans cette représentation ?
Il y a une statue qui est un peu bizarre au lieu d'avoir.
Oui, c'est quoi ?
Un
sphinx, vraiment ?
Non.
Un sphinx, c'est quoi ?
C'est un lion.
C'est un lion. Avec une tête d'homme. Hein. Un sphinx, c'est un lion à tête d'homme. Là, c'est quoi ?
Un lion à tête de lion.
Hein. Donc c'est un lion de type égyptien, effectivement. Hein.
Oui, sa position,
sa tête, également avec cette espèce de...
De bavette.
Ouais, de collier de poils, là, qui est un peu bizarre, mais que l'on trouve sur les lions égyptiens qu'on connaissait d'autant mieux d'ailleurs qu'à Rome, par exemple, il y avait plusieurs de ces lions-là amenés par les empereurs romains et que l'on pouvait voir au XVIIe siècle dans les rues de Rome. Donc voilà, on connaît bien ce type de lion égyptisant parce qu'il y en a à Rome, tout simplement. Pas besoin d'aller en Égypte pour ça.
Bien. C'est une fontaine, c'est une fontaine.
Oui, c'est une sorte de un lion fontaine, absolument. Hein. Mais évidemment, c'est pour donner une sorte de tonalité égyptienne à cette scène. Qui se passe en Égypte ?
Il y a quand même des hiéroglyphes gravés sous le lion. Hein.
Oui.
Il y a des hiéroglyphes gravés. Hein.
Il y a effectivement la des hiéroglyphes.
Donc c'est en Égypte.
Donc c'est en Égypte. Bon. Alors, je répète un peu ma question. Est-ce que, en plus de cette alliance politique qui est ici évoquée, il y a autre chose?
Bah, ils étaient copains.
Ils étaient copains, oui.
Mais ils étaient voir plus.
Il y a eu.
Pardon.
Il y a
deux choses. Hein. Ils étaient copains, comme vous dites, un peu plus même. Hein. Et justement, cette rencontre-là, qui a eu lieu où?
Mais elle est venue à Rome, normalement. C'est à Rome, elle est venue.
Non. Vraiment à Rome?
Elle était à Rome quand c'était Jules César. Ah, voilà. Mais là, non, pas c'est Antoine. Antoine, il avait cette partie de Rome qui était sous son autorité.
Qui était l'Orient.
Voilà.
Et donc, il a rencontré Cléopâtre. Et Cléopâtre, à quel endroit? Avant?
Il y a un bateau à Alexandrie.
Oui, mais en fait, il y a une rencontre avant.
Oui.
Non.
Non, non, non.
Une ville d'Asie mineure.
Oui. Éphèse.
Tarse. Et en fait, ce que vous avez là, c'est la rencontre d'Antoine et de Marc-Antoine, hein, et Cléopâtre à Tarse. Hein. Donc en fait, on n'est pas en Égypte. Mais enfin, il fallait donner une connotation égyptienne, donc on a flanqué un nom égyptien pour faire égyptien. Mais ils n'est pas en Égypte. Mais enfin, on n'aurait pas un problème. Enfin, une ambiguïté presque, pas très grave. Puis après tout, égyptien. Tous les objets égyptiens tout le long de la Méditerranée. Bien, donc ils étaient effectivement proches. Vous disiez également que
Marc-Antoine a trahi Jules César.
Voilà, Marc-Antoine s'est opposé à César et au successeur de César qui est qui?
Octave.
Qui est Octave. Octave qui deviendra Auguste. Hein, Octave et Auguste sont le même. Hein. Donc effectivement, Marc-Antoine, qui est un Romain, va bientôt, notamment grâce, enfin du fait de cette alliance avec Cléopâtre, se révolter contre Rome, c'est-à-dire contre bien d'où il vient. D'accord ? Donc tout ça est derrière. Hein, okay. Donc on a effectivement une tapisserie qui montre tous ces éléments-là. C'est bon pour vous ?
Oui.
Zeus. Alors,
non, il est sur un aigle.
Donc effectivement, on a un dieu, Zeus, sur un aigle. Hein. Qu'est-ce qu'il tient?
Le foudre.
Voilà. Hein. Donc vous savez que quand on montre Jupiter qui tient la foudre, on dit le foudre. Hein. C'est un objet du genre masculin, donc il tient le foudre. Donc c'est bel et bien Jupiter, très bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire d'autre sur cette tapisserie? Oui, voilà, décidément, voilà, jusqu'à l'encadrement, c'est une tapisserie qui fait tableau. Hein. Ouais. C'était déjà une tendance qu'on avait vue au XVIIe siècle, là, c'est de plus en plus évident, le cadre reproduit complètement un vrai cadre, si vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire?
Le sujet en lui-même prend peu d'importance, peu d'importance en surface.
Ouais.
Il y a beaucoup de décors.
Oui. Mmh. Ça vous rappelle des choses? Oui, par exemple, ce qu'on avait vu dans la renommée la dernière fois, et puis encore, et surtout.
La première séance de tapisserie, il y avait plein de décors.
Oui, mais par rapport à la séance de la dernière fois. Quand même.
Oh ben, la mise en scène là, avec les colonnes devant, les fleurs.
Oui, en même temps, ça ne représentait pas du tout des dieux.
Non, c'est plutôt quand on a vu Psyché et puis.
Alors, effectivement, quand on a vu Psyché et Cupidon, il y avait une bordure. Mais moi, ça me rappellerait plutôt la tapisserie auquel on faisait allusion tout à l'heure. Vous savez, avec Vénus, sur cette espèce de bateau qui ne semblait pas un bateau, on avait l'espèce de dieu les uns côté des autres, comme ça. Hein, faisant une tapisserie assez hiératique, très décorative, où le sujet, c'était une Vénus au milieu, puis j'allais dire d'autres figures. Vous rappelez de cette
histoire?
Vous
avez
la marque sur Internet.
Oui, c'est chargé.
Ah, beaucoup plus chargé. Hein.
Mais là, ça fait plus un décor rapporté.
Oui. Oui, mais je veux dire, l'idée n'était pas une scène, si vous voulez.
Ah, oui.
C'était des figures les unes à côté des autres. Hein. Là, vous n'avez pas du tout la même chose qu'avant. Hein. Avant, vous aviez une scène qui est présente. Là, vous avez une divinité, et tout autour, vous avez un cadre, et entre les deux, effectivement, une bordure. Hein. On appelle ça, d'ailleurs, des tapisseries à alentour, au XVIIIe siècle. Hein. Il y a des tapisseries qui ont une sorte de double cadre. Hein. On pourrait dire qu'effectivement, au centre, il y a le sujet, après, il y a toute une sorte de bordure, et enfin, le cadre. Un peu comme s'il y avait deux cadres l'un dans l'autre. C'est des tapisseries à l'entour. Hein. Il n'est plus question de faire des scènes où on met une sorte de vignette et des bordures tout autour. Et ça, c'est vraiment la tendance qu'on avait vue la dernière fois à la fin de la séance. Hein. Avec cette Vénus, certes, il y avait du monde, mais c'était des figures les unes à côté des autres. Il n'y avait pas scène, si vous voulez. Ce n'est pas le triomphe d'Alexandre. Hein. OK ?
Oui,
oui. Là, on a un mélange de choses.
Oui, on dit que c'est une obusson, ça.
Pardon ?
C'est une obusson.
Ça, c'est une obusson aussi.
Avec le cadre
bleu. C'est une obusson, c'est une gobelin.
Gobelin ?
Gobelin, gobelin.
L'autre avant ?
Un gobelin.
Le cadre bleu, c'est pas le.
Ah non.
C'est pas
non.
La marque d'obusson ?
Non, non, gobelin, gobelin. Tout ce que vous avez là, c'est gobelin. Pour l'instant, c'est gobelin. On va avoir des obussons.
On nous en enduit des ronds,
alors ? Ah ben, je sais pas. Pourquoi une peinture ? Mais ça, c'est. Pour l'instant, on est chez vous.
Ça ressemble vraiment à des tableaux.
Même combat, vous avez vraiment une tapisserie qui singe un tableau, alors d'autant plus que là, il y a un vrai cadre.
Okay.
Mais ça vous montre aussi l'idée de l'utilisation de ces tapisseries. Hein. Les tapisseries deviennent, j'allais dire, vraiment sont utilisées comme des tableaux, c'est-à-dire qu'on leur ajoute des baguettes. Donc il y a vraiment une sorte de mimétisme encore plus fort que ce qu'on avait vu précédemment. Hein. C'est vraiment, ça devient des tableaux tissés. Okay.
Oui.
Au-delà de ça, qu'est-ce que vous voyez ?
C'est l'Orient.
L'Orient, mais encore.
C'est une scène où il n'y a que des femmes.
Il n'y a que des femmes.
Oui.
Donc, ça pourrait être
un harem. Ok.
C'est une dame qui est préparée par ses servantes.
Ouais, et si on avait à donner un titre ?
La toilette.
La toilette ? La toilette d'une dame.
Oui, une courtisane.
La toilette d'une courtisane.
Une favorite.
Une favorite.
Ok. Alors, qu'est-ce que ça souligne, là ?
Il y a un miroir, il y a un coffret,
c'est ça. Un miroir, choisir sa robe. Ok, coffret, miroir, bijoux.
Vêtements.
Vêtements. Ouais. C'est la toilette d'une dame. Mm-hmm. Et donc, vous dites que ça se passe où ?
Je
ne
suis pas d'accord. Il y a un lit.
Un lit, peut-être, oui.
Oui, derrière, oui.
C'est pas l'Orient. Par contre,
Elle est assise sur des coussins quand même.
Il y a des sacrés coussins.
Beaucoup de coussins. Et puis ce qui est étonnant, ce sont les grandes colonnes qui sont à côté.
Ouais.
Ça fait quand même.
Ça fait extérieur, alors qu'on peut croire que c'est dans l'intérieur.
Ouais. Ouais, ça doit quand même être en Europe le décorum la plus.
Alors on est en Orient ou on est en Europe ? Donc on est en Europe. Mais pourquoi alors vous parliez d'Orient tout à l'heure ?
Parce que la servante a la peau sombre et un turban sur les cheveux. Elle a la peau sombre.
La bleue, celle-là.
Madame du Barry avait, Madame Montpadour aussi, hein, quelques serviteurs à peau sombre. Hein.
Ah oui, certes. Ouais, certes. Oui, mais ça ne fait pas très Versailles derrière. Hein.
Pas certains d'entre vous disent au contraire que les colonnes se lient à la polonaise, ça fait très occidental. Non ?
Elle a un chien sur
ses genoux. Oui, parce qu'en fait, c'est à part où vous avez dit Orient, et maintenant vous semblez dire que finalement c'est assez occidental.
Quand même, elle a un espèce de sarouel. Oui,
la petite dame,
oui, puis elle est pieds nus, la servante. À Versailles, elles n'étaient pas pieds nus, les servantes. Les pieds nus. Ben, celle qui a la peau sombre, elle est pieds nus.
Je crois qu'elle a des spartiates.
Des spartiates. Elle est pieds nus.
Difficile de dire. J'ai l'impression qu'il y a des espèces
de
bottines, si vous voulez, un peu comme les os. De chaussures à bout pointu, vous savez, dans lesquelles on se.
Babouche.
Oui, des sangs de babouche. Voilà, cherchez le mot.
Donc c'est l'Orient.
Donc c'est l'Orient.
Non, elle est peut-être orientale. Vous voulez, hein.
Elle est peut-être orientale, elle. Voilà.
Bon, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression d'un certain nombre d'éléments d'un vocabulaire oriental, babouche, femme à la peau sombre, turban, mais dans un contexte qui, lui, sera occidental. Oui. Est-ce que j'assume bien ?
Oui, bien. C'est possible.
Oui, ça se dit très simplement. Bien, passons à la suivante. Donc on retourne vers l'idée de Zeus, c'est-à-dire
une tapisserie
à alentour. Une tapisserie avec une sorte de double cadre, un cadre extérieur, très néo-peinture, des décors et puis une peinture qui est vraiment au centre. Bien.
Bien. Il y a des fleurs de lys en bas.
Il y a des fleurs de lys en bas.
Il y a un pan en haut.
Et
puis il y a encore les 14, il y a les ailes.
Il y a encore les. Oui, on voit les. On voit. Là-haut.
Oui.
Mais les costumes sont plutôt Henri IV.
Les costumes sont très Henri IV, ok.
La présentation d'une statue au.
Exact, une statue.
Voilà,
un buste. Oui, effectivement, vous avez raison, on voit un buste sur la table. Hein. Donc, c'est la présentation d'un buste. Okay.
Les deux médaillons latéraux, c'est toi comme bête.
Des lions.
Des lions ?
Oui.
Alors, c'est anglais ? Non, c'est pas lions. Parce qu'il
y a des lions.
C'est plutôt des léopards.
Oui, aussi des léopards. Non, ce sont des lions.
De chaque côté, il y a
deux médaillons,
deux blasons, si vous voulez, couronnés, hein, avec des lions. Mais revenons à cette présentation de statues, de bustes.
Il y a deux personnages en blanc
là-bas. On dirait
Henri IV, mais. Donc vous avez évoqué qu'on était plutôt dans des costumes. Oui, vous disiez.
On présente le buste de personnage de gauche.
Donc, on présente.
À mon avis, le sujet, c'est celui qui est à gauche. Ouais.
Donc, on présente ce buste à ces deux personnages-là.
Ils sont assis.
C'est ça ?
Oui.
Assis. OK ?
C'est
le buste. Les costumes font très début du 17e.
Oui.
D'accord. Notamment, ce costume a crevé dans le fond,
oui.
Là. Hein.
Oui, oui.
Ça.
Oui.
Ça fait très 17, début 17e. Hein.
Les fraises,
oui. Ouais.
Ouais.
Le personnage devant est en armure ou je vois mal.
Celui-là
oui. Celui qui se penche.
Oui, il a une lance.
Il a une lance.
Il a une armure.
C'est quoi le personnage? C'est Don Quichotte.
C'est Don Quichotte. On comprend pourquoi les costumes sont ceux du début 17e. Vous avez donc là Don Quichotte.
Et Sancho Pansa,
qui est où ?
Derrière lui,
là ?
Non, en face, le petit bonhomme rouge. Voilà.
C'est plutôt lui.
Ouais.
Donc le buste est Cervantes.
Pardon ? Le buste Cervantes accompagné par Don Quichotte et Sancho Pansa. Vous êtes OK là-dessus ?
Oui.
Pourquoi pas ?
Ça va.
Ah oui, il y a des personnages alentour.
Hein.
On en voit là. Là, une figure qui a l'air même un peu.
Fantomatique. Hein.
Oui, alors ça, c'est peut-être l'évolution avec des couleurs. Hein. Mais là, le geste de celle-ci et même de celle-là, devrait vous donner une idée. Les gens qui regardent ne sont pas là, regardez, comme vous êtes.
C'est un peu de stupéfaction.
On est surpris. Celle-ci lève la main et regarde sa collègue, là, qui d'ailleurs fait un peu une drôle-tête. Là, derrière, il y en a une qui est comme ça. Ah, c'est une surprise. Pourquoi ? Statue du commandeur. Vous connaissez cet épisode, non ?
Non.
Cherchez-vous là ?
Pardon ?
Il cherche les moulins.
Ah, il cherche les moulins. Il faut qu'il les cherche bien, d'ailleurs. Bon, eh ben, écoutez, on verra tout à l'heure. On va passer à la suivante.
Ça, c'est de l'horizon.
Des jeux.
C'est un empereur chinois vu à la moderne européenne.
Alors, on est en Chine. OK. On aurait donc un empereur chinois.
Oui.
C'est pas mal, l'empereur chinois.
Vous nous avez fait une conférence. Ouais.
Exact.
Il faut que je rassemble tous mes neurones.
Donc, un empereur chinois, et il se passe quoi?
Eh ben, il y a des danses.
Il y a des danses.
C'est un spectacle.
Un spectacle. Donc, l'empereur assiste à un spectacle.
Oui, mais ceux de devant, là, ils font quoi?
Ils sont sur un tapis.
Ils font de la musique, certes.
Donc il y a des musiciens devant. Et là, des danseurs.
Des danseurs, voilà.
Ok. C'est une danse chinoise.
Non, c'est un
bourré. Ils sont tous à la bourrée. Une bourrée
orientalisée.
Belle couleur.
Et la dame en blanc, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle joue de
l'instrument. Elle a un luth ou un truc comme ça. Un luth, je ne sais pas son quoi.
Une
sitar. Oui, je vous demande le nom chinois de cet instrument.
Ça existe un truc comme ça.
Lequel monsieur, vous ne voyez pas chinois?
Sous la pagode.
Là, vous ne le voyez pas chinois, celui-là?
Non, j'arrive pas à le voir chinois.
Vous ne le voyez pas chinois?
Non.
Mais il n'a pas les yeux bridés, mais il a une coiffe chinoise.
Donc la coiffe est chinoise, mais les yeux ne le sont pas.
Disons qu'au fond, le palais, c'est un toit de pagode.
Oui, parce que le visage des autres.
Oui, c'est un toit de pagode.
C'est un toit de pagode.
Il y a les armes de France en haut. France et Navarre, comme l'autre fois, là.
Oui.
Donc c'est Louis XIV qui se dit.
Donc vous trouvez que c'est un petit air chinois, mais avec des gens qui n'ont pas l'air chinois.
C'est ça
que j'entends.
C'est une représentation,
une interprétation européenne.
Un peu comme l'Orient tout à l'heure, hein, comme la toilette de la dame. On avait l'impression de quelque chose d'un peu oriental, mais avec des tas de choses qui faisaient occidental.
Dans les parcs.
Et là, vous voyez ça un peu, pardon.
Dans les parcs.
Il arrive effectivement qu'au XVIIIe siècle, il y a des parcs où il y a des pagodes. Hein, vous en connaissez?
Oui,
vous en pouvez en citer d'ailleurs?
Oui, j'imagine.
Pardon?
Versailles, je sais pas.
Non, Versailles,
il n'y a pas le parc au Montsou.
J'en vois pas, non.
Saint-Cloud,
je n'en vois pas. Il y en a peut-être, mais je n'en vois pas. Il y en a plus. Non, mais vous connaissez Chanteloup au bord de la Loire. À Chanteloup, vous avez carrément une pagode. Hein, qui est très haute. Hein. Une pagode construite au XVIIIe siècle, à Chanteloup, au bord de la Loire, hein, qui est de Barchoisol, qui est un truc assez étonnant. Hein. Et puis, effectivement, il y a. Il y a eu en France des lieux où il y a eu. Une espèce de construction chinoise, mais hélas, pour le XVIIIe siècle, en France, il ne reste plus grand-chose, ces constructions-là. Mais en Allemagne, par exemple, hein, il y a encore un certain nombre de châteaux du XVIIIe, où il y a dans le jardin des pagodes, ou des tentes chinoises, ou orientalisées. Bien. Donc on a là une fête chinoise, avec des danseurs, mais vous soulignez la dimension un peu occidentale de tout ça, malgré un vernis chinois, c'est ça?
C'est une fête donnée en France, mais avec un folklore chinois. Enfin,
une fête donnée en France, à la manière chinoise. Des palmiers. Oui, il y a des palmiers. Oh, ben, des palmiers, ça s'apporte. Hein.
Tapisserie avec des colonnes.
Présenté
en colonne.
Oh, c'est des dieux et des déesses au milieu.
On aurait donc des dieux et des déesses.
Oui.
Okay. Il y a
Diane. La Diane avec le croissant
en deuxième.
Et son arc.
La Diane.
La deuxième, ouais. Oui.
Okay.
On voit
vois pas bien.
Non, c'est pas forcé. De loin, c'est pas pressé à voir.
C'est assez plaisant à l'œil.
C'est marrant parce que les encadrements font penser à des porcelaines chinoises.
Un peu.
La porcelaine rose,
c'est très, verte, c'est très féminin. Donc.
Tu crois que c'est de la porcelaine?
Bon, mais si vous, si vous essayez au niveau de la composition de définir un peu cette tapisserie, vous diriez quoi?
Alors,
c'est purement décoratif. C'est très décoratif. Ça vous rappelle des choses?
Les premiers qu'on avait vus.
Presque le Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge.
Ah, alors là, vous revenez carrément au Moyen-Âge.
Oui,
sauf que là, ce n'est pas des ours. Qu'il n'y a pas de bande monochrome, vous voyez.
Ça ressemble plus au décor du début de la Renaissance, où on avait un tas de petites choses.
Qu'on appelle comment?
Je ne sais plus. Qu'on avait retrouvées en dégageant
Oui, dans le sol.
Comment?
Dans le sol, en dégageant, en creux. Comme si c'était des...
Sur les murs.
Oui, mais les murs n'étaient pas au niveau du sol, ils étaient dessous.
C'est un petit peu
comme dans quoi? Comme dans
des grottes.
Des grottes. Voilà. Et on appelle ce genre de décor des grotesques. Voilà. Je dynamise là. Les souvenirs, là. On appelle ça des grotesques. Parce que à partir de la Renaissance, on retrouve très souvent, notamment à Rome, des ruines antiques, mais qui évidemment sont sous le sol. Alors on conçoit un bâtiment, puis pouf, en faisant ça, on découvre une salle qui est comme ça, en profondeur, comme une grotte, et ces salles sont quelquefois encore couvertes de peintures qui datent de l'Antiquité. Et ces peintures, qui sont trouvées dans des grottes, on les appelle des grotesques. Donc ce genre de décor est évidemment complètement dérivé des grotesques que, depuis la Renaissance, dont on s'inspire pour faire ce genre de décor. Donc on a effectivement là, ce genre de choses, c'est des décors dont on pourrait trouver l'origine dans des peintures antiques, à Rome ou à Pompéi, par exemple, ou à Herculane, vous avez plein de trucs comme ça. D'accord? Donc ça, c'est des décors de grotesques, ce qu'on appelle des décors de grotesques. Et par rapport à des choses qu'on aurait vues aujourd'hui, tout ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Antoine et Cléopâtre, par exemple?
Non.
Ah non.
Ah non.
Ça vous rappelle la sultane?
Non.
Ah non.
Non, c'est...
Ça vous rappelle la danse chinoise?
Non, ça nous rappelle...
Ça vous rappelle Zeus? C'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir un Zeus, on avait six. C'est pareil. C'est pareil.
Oui, parce que c'est encadré.
C'est-à-dire que là, vous avez... Vous me découpez ça, clouc, vous avez Zeus.
Oui.
C'est-à-dire que l'idée, c'est là... D'avoir des pièces, vous évoquez éventuellement décorative, vous n'avez pas une scène avec Cléopâtre et Marc-Antoine à Tarse, avec plein de monde, un bateau et un lion égyptien. Vous avez, pouf, un dieu, puis des grotesques tout autour, avec des alentours qui font, j'allais dire, autant de petits tableaux côte à côte.
D'accord.
Ok, ces personnages, ce seraient donc qui, vous le disiez? Alors vous le devinez peut-être pas très bien, mais on voit par endroit des choses. Par exemple là, non, vous ne voyez pas trop. C'est un peu difficile de voir.
C'est un animal.
On verra un petit peu. Oui, il y a un animal.
C'est un animal, mais bon,
ouais. Mais vous n'avez pas une idée de ce que ça peut être comme animal ou ce que ça peut signifier? De la même manière, à tous les niveaux, vous avez des éléments comme ça qui peuvent peut-être...
Encore des signes du zodiaque.
Voilà. Il y a effectivement en dessous des signes du zodiaque ou bien des éléments qui évoquent quoi? Par exemple, là, peut-être vous voyez mieux là qu'ailleurs.
Les saisons.
Ouais, voilà. L'idée, de lier chaque dieu à une temporalité, un signe de zodiaque, etc., à un mois. Autrement dit, il y avait dans cette tenture deux pièces avec les 12 mois de l'année.
D'accord.
chacun symbolisé par un dieu. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est évidemment une diabolique très décorative, où on ne dit pas des choses, mais où un dieu égale un... Alors, donc vous disiez ça, Diane, c'est ça ?
Oui.
Ça. Je regarde si vous pouvez le voir de loin.
Ça dépend de laquelle...
Un petit peu quand même. Mais...
Hermès.
Hermès, ok. Mm-hmm. Là, peut-être une idée ?
Il y a une corde d'abondance, il me semble.
C'est pas un aigle ? Non.
Il va sur un oiseau ?
Non. Et là, ça vous pouvez deviner. Qu'est-ce que vous voyez ?
Il porte un enfant.
Voilà, une femme qui porte un enfant. Non, mais une femme qui porte un enfant, la mythologie, il n'y en a pas 3000.
Oui, c'est Vénus. C'est
Vénus, c'est Cupidon. Quand vous pensez aux dieux, une femme avec un enfant, c'est Vénus.
Cupidon.
Hein ? Ça ne va pas être Diane avec qui ? Diane, elle n'a pas d'enfant avec elle. Ça ne va pas être... voilà, c'est, ça va pas être Athéna. Hein. Athéna avec un gosse, surtout pas. C'est Vénus et Cupidon.
Il nous faut un casque. Hein, voilà.
Alors, suivante. Alors là, j'ai mis un petit cache pour évoquer que vous voyez de quoi il s'agit. Parce qu'évidemment, il y a sur le cartel, sur le cartil, il y a ce dont il s'agit. Un tremblement de terre, une sorte de tremblement de
terre.
Des colonnes qui s'écroulent.
Ah, mais c'est la colère de Dieu, puisqu'on montait les anges sur un espèce de dragon.
Ouais. Alors, il y a effectivement... Où est-ce que vous voyez un espèce de dragon ?
Là, au milieu.
Là, effectivement. Très bien.
Avec un...
Mais encore.
Il y a un personnage qui est...
Un posange, là. C'est un...
Il y a des anges, vous voyez là.
Oui, mais ils sont tous ailés.
Ils sont tous ailés. Hein.
Oui.
Ah oui, effectivement.
Des anges.
Non, ils ont des ailes.
Ah, ils ont des ailes.
Des têtes d'ange. Ah oui, il a des cornes.
Il a des cornes.
Des anges à cornes.
C'est la chute de Lucifer.
Ah, c'est peut-être plus des démons que des anges.
C'est quand il est chassé.
Des anges à cornes, ça ne le fait pas. Hein.
Des anges déchus.
Des anges déchus.
Des chants de anges déchus. Déchus. Bien, on a donc des anges qui sont en train de...
Chasser.
Ils sont chassés ?
Non, ils détruisent.
Ils détruisent. Des gens qui détruisent une architecture. Et au milieu, pardon ?
En train de plier, parce qu'on dirait qu'ils ramassent des choses.
Ah oui, pillent tout en détruisant. Ok. Et donc, au milieu, un monstre. Très bien. C'est tout ? C'est déjà pas mal, oui.
C'est des
marches du bâtiment. Hein. Bâtiment s'effondre, on revoit un peu les marches. Voilà. Okay.
C'est très dynamique par rapport à ce qu'on...
Très dynamique, là il y a du mouvement. Hein. Et du drame. Hein.
Oui,
par rapport aux autres. Même les scènes où il se passait un peu quelque chose, hein, Cléopâtre à Tars, là, c'est quand même encore plus énergique. Hein.
Qu'est-ce qu'il a écrit sur la pierre ?
On dirait que le personnage, hein, il a l'air d'être jeune, sur le dragon, essaye de lutter contre.
Quel personnage ?
Ben, sur le dragon.
Ah, parce qu'il y a un personnage sur le dragon.
Ben, oui.
Ah, d'accord.
Ah, ben, on l'a dit.
Ah, ben, j'ai pas entendu. Il y a un personnage sur le dragon.
Oui, on l'avait dit.
Okay.
C'est qui ?
Avec une baguette qui essaie de...
Ah, voilà. C'est un personnage qui dirige les opérations. Alors.
Oui, il dirige la destruction.
Ah. Donc, ce personnage sur le dragon dirige la destruction.
Ah,
oui.
Vous parlez de médaillon au bout ?
Il y a un médaillon dans le bas, à droite, et puis il y en a un autre un petit peu en haut, à gauche.
Vous parlez de...
Non. Dans le tableau.
Ah là, ici.
Il y a même plus haut, au pied de la colonne.
Ah là.
Donc on détruit un peu ce pouvoir.
Ah oui, on détruit un édifice important, hein. Mmh. C'est pas une quête, hein.
Non.
Manifestement, d'ailleurs les colonnes montrent que... Hein.
C'est
cette destruction avec ce personnage qui dirige les opérations du nom de son monstre, et qui dirige des sortes de diables ailés, cornus, qu'est-ce que... C'est quoi c'est, ça vient de quoi, ça? Ça évoque quoi? Ça vient de quel répertoire?
Biblique.
Biblique. Une scène biblique.
Oui,
biblique.
La destruction du temple.
La destruction du temple de Jérusalem. Donc Titus serait monté sur un dragon.
Non. C'est plus ancien.
Plus ancien.
Oui, plutôt l'Ancien Testament. Alors, parce qu'il y a un temple détruit.
Sodome et Gomorrhe.
En tout cas, une scène biblique.
Qu'est-ce que c'est le truc bleu qu'on voit en bas?
C'est sans doute un de ces écussons, ce thème. Ces écussons, ça, vous parlez de ça? Oui, comme ça. C'est des blasons, hein, qui étaient visiblement sur le monument et qui se trouvent ensevelis. Ce qui montre vraiment qu'on est devant un bâtiment important, blasonné, qui s'écroule.
Ça pourrait pas être un morceau de l'Apocalypse?
Un morceau de l'Apocalypse.
Ah ouais.
Ouais. Ce genre de mise en scène comme ça, dynamique, ça vous fait penser à des choses? Pas trop.
Ça ne pense pas, ces gens-là.
Bon, ben écoutez, on verra tout à l'heure. On ne va pas non plus passer la réveillon là-dessus. Hein. Et qu'est-ce qui se passe là? Il rencontre
Dulcinée.
Ah, il rencontre Dulcinée de Tobosco. Vous vous rappelez? C'est Don Quichotte, qui est un peu allumé, mais peut-être plus sage que les autres. C'est ça, tout l'enjeu du livre de Cervantes. Peut-être qu'il est, on le croit fou, mais c'est peut-être le plus sage. Est en train là de s'enticher d'une brave paysanne sur son âne, qui est un joli minois et qui va devenir ça. Ça Dulciné. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Dulciné aujourd'hui. Ça Dulciné, c'est en référence, c'est inventé. Dulciné de Tobosco. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que Don Quichotte veut absolument trouver en cette paysanne cette Dulciné de Tobosco qui va être sa muse, en quelque sorte.
Sa quête.
Pourquoi?
Il a besoin de dédier ses œuvres à quelqu'un.
Oui, et pourquoi elle? Pourquoi?
Il tombe amoureux.
Quoi, une dame? Il tombe amoureux, ok. Mais c'est un amour. C'est Antoine et Cléopâtre ou c'est...
Non, c'est un amour platonique. Hein.
Oui, et qui vient de quoi?
C'est son inaccessible étoile.
Pardon?
C'est son inaccessible étoile.
Oui, alors effectivement, quelque part, Dulcinée est inaccessible. Hein. C'est la femme avec un grand F, quoi. Oui. Et ça vient de quoi? Ça vient de
l'amour courtois. Pardon? L'amour courtois.
Ça vient de l'amour courtois. Hein. Don Quichotte est le produit de la grande littérature courtoise. Hein. Vous savez, le chevalier courtois a toujours sa dame. Hein. Eh bien, la dame de Don Quichotte, qui est une dame effectivement insaisissable, voilà, c'est Dulcinée. Hein. Donc là, on a finalement un des moments essentiels hein, de l'œuvre, qui est en effet Don Quichotte qui s'éprend de Dulcinée et qui a enfin trouvé sa dame. Hein, désormais, elle sera sa dame. Ça vous rappelle quelque chose?
Tout à l'heure, l'autre...
Ouais, tout à l'heure, déjà, on a vu un épisode de Don Quichotte. On a vu une scène avec Don Quichotte qui était peut-être, vous le disiez, la présentation... entouré par les personnages de Don Quichotte, du buste de Cervantes, hein, c'est ce que vous évoquiez. Hein. Cette tapisserie et justement celle-là font partie de la même tenture. C'est pas les mêmes couleurs. Alors, les couleurs, ça peut changer.
Il y avait le blason.
Et puis tout à l'heure, la tapisserie qu'on a vue, c'était tapisserie comment? Pardon?
Ça représentait un motif intérieur.
Oui, c'était donc une tapisserie comment, qu'on appelle comment? Le terme qu'on a évoqué déjà? Avec deux cadres l'un dans l'autre? C'était une tapisserie à l'endroit. Là, c'est pas du tout une tapisserie à l'endroit. Là, vous avez un cadre et puis là, le motif à l'intérieur. Hein. Tout à l'heure, on avait, rappelez-vous, le motif tout autour des grotesques et puis un cadre. C'était une tapisserie à l'endroit. Là, on n'a pas de tapisserie à l'endroit. Hein, c'est la scène entourée d'un faux cadre, on est d'accord. Hein. C'est donc deux tapisseries appartenant à deux tentures différentes. Oui. OK. Ça vous dit quoi, ça?
C'était à la mode.
Et voilà. Manifestement, Don Quichotte, ça fonctionne. Vous avez donc deux tentures qui, au XVIIIe siècle, et une tenture, ça peut aller jusqu'à une dizaine de tapisseries, hein, quand même, évoque Don Quichotte. C'est donc un thème à la mode, hein, parce qu'on n'en trouve pas forcément des tocs comme ça.
Là, ça représente une bataille.
Une bataille. Une bataille.
Devant une ville qui va être assiégée.
La ville qui va être assiégée, dans le fond, n'est-ce pas?
Ouais.
Et au premier plan, les soldats.
Les soldats.
Les cavaliers. Ok. Donc ça, c'est quel genre de scène? Pardon?
Des Turcs.
Ah, il y a des bandeaux. Et à droite. Donc c'est une bataille avec des Turcs.
La chute de Constantinople.
La chute de Constantinople.
1453.
Okay.
C'est
le numéro
de ma voiture.
Écoutez, on a une manière de s'en souvenir. Vous êtes très oriental.
Dans le médaillon qui est au milieu, il y a des fleurs de lys.
Oui, dans le médaillon qui est au milieu, il y a des fleurs de lys. Et là, il y a toute l'inscription que vous pouvez facilement lire. Ça, de...
Oui, c'est vrai.
Oui, je ne l'ai même pas cachée, celle-là. Je crois que
c'est...
C'est
bien pourquoi.
Enfin, quand même, les deux chevaux, là, devant, ils sont...
Il y a encore les aigles, effectivement. Là, les aigles aux angles.
Les deux chevaux n'ont pas de cavalier.
Il y a deux chevaux qui n'ont pas... Oh, ils ont sûrement été déchaînés, hein, à la guerre.
Oui, mais pourquoi comme ça, là?
Une rencontre plutôt qu'une guerre.
Pourtant, ils sont derrière des boucliers, là-bas, hein, au fond. Hein.
Oui, mais ça, c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un. Il y a trop d'armée.
Ah, ce serait plutôt alors une rencontre et l'accueil du représentant du sultan. Ah, ici, il y a une dame, oui. Une dame.
Pas une tenue de guerre.
Donc, ce n'est pas une tenue, c'est pas une scène de guerre. C'est plutôt une rencontre et la rencontre d'une ambassade, vous disiez, d'un personnage oriental. Ok.
C'est angélique. Et les chevaux, ça ne serait pas des cadeaux.
Ah, des cadeaux.
Parce qu'ils sont beaux, ils sont belles.
Ils sont bien
carapassonnés.
Hein.
C'est pas vrai.
Non,
c'est
pas
vrai.
Donc, on est passé de la bataille à la rencontre, c'est pas tout à fait pareil, avec des Turcs, peut-être une sorte d'ambassade turque, c'est ça que vous disiez, hein, avec peut-être des cadeaux, qui seraient ces chevaux caparaçonnés au premier plan. Hein. On a des gens qui regardent, notamment une dame avec un beau vêtement. Décidément, on n'est pas trop dans un contexte guerrier. Ok.
Ce ne serait pas une ambassade qui vient demander de Louis XIV s'il vient demander son aide à ce Liban
Alors peut-être une ambassade, hein, vous évoquiez la question de l'ambassade à l'instant, une ambassade qui viendrait demander à Louis XIV son aide.
Non, l'inverse.
Ah, Louis XIV demande l'aide d'une ambassade.
Ouais.
Ok. Bon, en tout cas, c'est, on se rencontre. Quoi. Voilà.
Il est où, Louis XIV?
Okay. Et alors, ça aurait lieu où, ça?
Mais parce que derrière, il y a quand même un rempart.
Oui, mais
il y a du monde sur les
murs. Ils sont là.
Ah, bah quand il y a des remparts, il y a du monde dessus. Hein. C'est le meilleur moyen de voir, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
On monte sur les remparts.
Vous êtes sûr que c'est un rempart?
C'est vous qui le dites.
Ah oui, il y a un mur.
Oui, il y a un mur, mais au-dessus, c'est des tentes.
C'est des tentes. C'est des tentes.
Alors, il y a un mur ou des tentes, c'est ça?
Il y a un mur et dessus des tentes.
Il y a un mur et des tentes. Bon.
Un mur et dessus, il y a des tentes.
Ah, il y a un mur.
Et dessus, il y a des tentes.
Et des personnages.
Et dessus, des tentes.
Et puis des tas de personnages.
Et des tas de personnages.
Sur les tentes.
Une armée, c'est l'armée. L'armée sur les remparts.
Oui, mais bon, si on vient de
manger,
pourquoi une armée?
C'est des bonnes femmes, avec des
dames, avec des robes.
Ah, ben écoutez, abat les genres, il n'y a pas de raison que les mecs.
Non,
non, Michel. À droite, un monument.
C'est que des personnages. Il n'y a pas de tente.
Non, il n'y a pas de tente. Ce sont que des personnages.
Il y a une coupole. Hein.
Ouais, il y a une coupole là.
Encore une turquerie.
Oui, c'est ça. Ça me
surprend.
Oui, c'est je résume vie bonne femme.
Il
n'y a pas des tentes. Non,
non, non. Il n'y a pas de tente. C'est des
personnages.
Donc un rempart avec des personnages. Des gens qui se rencontrent.
Moi, je ne comprends pas les personnages armés au-dessous.
Les personnages armés.
C'est indéfini.
Ici, là.
Du 14 juillet.
Ouais, en bleu. Ah,
ceux-là.
Non,
non. Ah, là. Il y a la grande base, là. Voilà.
Là.
Sous Louis XIV. Alors, ça
chez les soldats.
Des soldats.
C'est
indéfini. Oui, oui, il y a un rang de soldats.
C'est Louis XIV.
Donc, on aurait plutôt quelque chose qui est entre la rencontre d'ambassade et une parade militaire. Avec des soldats, des gens massés sur les remparts.
Ouais.
On est devant une ville dont on aperçoit les élévations, notamment ce grand dôme sur la droite.
Il y a une statue à cheval à gauche.
Ah, une statue à cheval à gauche.
Ouais. Oui.
Complètement à gauche.
Ouais.
Complètement
ouais.
À gauche.
Ouais.
Encore un truc que.
Donc,
parce que
ah ouais,
on regarde jamais
c'est
assez.
La lanterne,
c'est Versailles.
Ouais.
C'est donc ah, c'est Versailles et Constantinople.
Non, mais Versailles, il n'y a pas des coupoles comme ça.
Mais
pas des...
Et non, c'est Versailles. Mais non, c'est imagé, c'est pas Versailles.
Non.
Oui, oui,
oui. Et la ligne d'horizon, qu'est-ce qu'elle représente? Quelle ligne?
Oui, ça c'est un. Ça, vous parlez de ça?
Oui,
ça c'est un pli.
Ça c'est un défaut.
Oui, c'est un pli. On a... Il ne faut jamais plier les tapisseries, mais je pense que celle-là a été pliée.
Là, les arbres n'ont pas de feuilles.
Ah oui, c'est peut-être l'hiver, hein. Bien, donc nous sommes, je résume, devant la présentation de quelque ambassade reçue quelque part entre Versailles et Istanbul, et avec une armée qui se trouve au pied de remparts, sommet d'une foule, au premier plan, un échange peut-être de cadeaux avec de très beaux chevaux caparaçonnés, des soldats, des spectateurs divers et variés, force turban, il y a de la turquerie derrière tout ça. Voilà.
Oui, parce que Louis XIV, de toute façon, avait reçu une délégation.
Louis XIV avait reçu une délégation. Donc ce serait ça, Louis XIV, qu'elle soit une délégation.
Ça avait donné toute une mode, d'ailleurs, des turqueries.
Ça avait donné des turqueries, bourgeois gentils, on oblige.
Mamamouchi.
Très bien, Mamamouchi et tout le tintouin. Très bien.
Mamamouchi.
Non, non, mais c'est pas bien. Non, ça, c'est...
Allez.
Ah, on est dans les cieux, là. C'est plus reposant.
On vole.
Alors, ça vole, oui.
On doit être mythologique, ça.
Mythologique.
Jupiter avec le foudre.
Pardon.
Jupiter avec le foudre.
Ah, non, Jupiter avec le foudre qui serait en bas à droite.
Ah, oui.
Ok.
Mais c'est un foudre.
Non, c'est pas. Non, non, c'est une épée.
C'est une épée. C'est une épée bannée. Oui,
c'est une épée.
Une épée avec.
Ah, bah c'est.
Une femme.
Oui.
Non, c'est une épée.
Hein. Moi, je vois une flamme.
Alors, voyez une épée ou voyez le foudre?
Non, une épée.
Alors, si c'est le foudre, ça peut être effectivement Jupiter. Hein.
Non, non,
si c'est une épée, c'est qui? Enfin, ça peut être qui?
Ça peut être celui des enfers. Là, qui...
Non, non.
Hadès, Pluton.
Non, Pluton, c'est...
Mais regardez peut-être le reste, parce qu'avant de vous polariser sur un personnage,
ouais.
En regardant les autres, ça va peut-être vous éclairer.
Oui, mais c'est la femme, il y a les deux femmes.
Il y a deux femmes. C'est Vénus qui trompe
son
mari avec... comment il s'appelle, le dieu de la guerre?
Ah, c'est le dieu de la Mars.
Ah, c'est Arès, Vénus qui trompe son mari avec Mars.
Voilà,
donc on a là Mars, d'où l'épée.
Oui.
Et Vénus. Vénus qui apparaît très, très dénudée, très séduisante, sur des nuages.
Mais lui, il y en a une autre. Mais il y en a une autre, oui, alors je ne sais pas laquelle est.
Oh, ben, Vénus est rarement seule. Il faut quand même un petit peu de monde autour d'elle. Hein. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Il y a force petit fessu, ça c'est normal. Pour Vénus, voilà. Pardon. Ah, ils ne sont pas sur des nuages.
Non, ils sont sur un sol.
Sur une sorte de montagne, de roche.
Des rochers.
Ok. Il y a quand même quelques petits nuages à l'arrière. Hein. Bien, donc on a Vénus.
Il y a une colombe. Vénus, il n'y a pas les colombes.
Vénus, c'est effectivement l'oiseau. Pardon. La colombe, c'est l'oiseau de Vénus. C'est pas l'inverse.
Ça confirme.
Donc, on aurait Vénus qui vient voir Mars, le dieu de la guerre, avec ses armes, le tout dans un paysage rocheux, un peu embrumé, avec quelques poutis pour agrémenter la chose. Ça vous va, tout ça ?
Oui.
Très bien. Donc, ça vous suggère quoi ? Dans cette scène bien encadrée. Hein.
Oui.
Enfin, bien faussement encadrée. Quel répertoire ?
Mythologie.
Mythologique. Une mythologie antique. De quel genre ?
Antique.
Antique. Oui. Mais encore.
Gréco-romaine.
Légère. Légère. Une mythologie légère. On n'est pas à se poser mille questions. C'est. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? C'est rapport entre les dieux. Qui...
L'entente cordiale.
Oui. Ça évoque quoi ? Les dieux et puis quoi ? Et leurs relations.
Les amours
des voilà, dieux. Les amours des dieux. On pourrait appeler ça les amours des dieux. Ok. Alors, voilà une tapisserie qu'on peut qualifier de tapisserie comment ? Une tapisserie à alentour. Un cadre et un deuxième cadre. Une tapisserie à alentour.
Voire un troisième.
Voilà, oui, c'est ça. Il y a vraiment cadre sur cadre. Hein. Enfin, il se passe un peu quelque chose au centre. Vous allez me dire, on ne voit rien. Mais si on regarde, on voit quand même quelque chose un peu.
On
voit une dame.
Qui tient quoi, la main ? Qui tient une bouteille, une petite, un flacon.
Elle tient une lampe. Je vous le dis parce que de loin, vous ne voyez pas. Une lampe à huile. Une lampe à huile. Et il y a effectivement ici... Un personnage couché dormant.
Et il y en a un autre en haut, non ?
Oh, ici et là ?
Oui, c'est des poutis.
Il y a des poutis.
C'est des poutis.
Bon, il faut ça.
Donc c'est un petit peu le même sens qu'on a vu tout à l'heure avec Jupiter et tout, c'est-à-dire un truc central.
Oui, sauf que là, il y a quand même, il se passe un peu quelque chose au centre. Oui, hein, Jupiter et Jupiter planté là, voilà. Là, il y a quand même une scène. Alors, c'est vrai que ça rappelle beaucoup. D'ailleurs, c'est aussi une tapisserie alentour, comme était celle de Jupiter. Vous avez raison, hein. Là, simplement, il y a une vraie scène. Sous Jupiter, il y avait Jupiter. Hein. Là, il se passe quelque chose. Donc, c'est une tapisserie alentour. Une tapisserie, effectivement, très décorative. Mais la petite différence, quand même, c'est qu'il y a une scène au centre.
Oui, c'est qui se donne un petit peu.
Alors, c'est quoi, cette scène qui figure une femme qui...
Qui
tient une lampe à huile. Et là, un personnage qui dort. Peut-être vous voyez quelque chose là ?
Un arc
et un carquois. Ça doit vous dire qui est le personnage qui dort, ça.
Oui, c'est l'amour.
C'est l'amour. On dit Cupidon, Eros.
Il est vieux, alors.
Donc il y a. Ah ben Eros, il grandit, il n'est pas jeune toujours. Hein. Le bien, c'est que les dieux, ils peuvent grandir, ils peuvent grandir.
Il
n'aurait
pas dû le regarder.
Eh oui.
Mais je ne sais plus qui c'est.
Ah. Elle n'aurait pas dû le regarder, elle l'a regardé.
Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La vie, c'était une fois.
Autrement dit, alors, quelle que soit la scène, là aussi, à quel répertoire ça appartient, cette vie serait alentour ?
L'antiquité légère.
L'antiquité légère, toujours. Hein. C'est cette antiquité légère dont on parlait, il y a déjà un instant.
Oui, 18.
Et ça ne dit pas pourquoi.
Non, ça on verra en ramassant les copies.
Ah ben c'est abîmé, là.
Voilà, il y a un singe,
un chameau, un chameau, inventé, revu.
Un singe, un chameau.
Il n'y a pas d'exotisme.
Représentation,
les oiseaux.
Qu'est-ce que c'est que cet animal, là ? Il y a des grandes oreilles, des petites pattes.
On dirait un lama.
Le lama, il n'a pas les oreilles. Non,
mais tu sais, ils enlèvent un lama.
Alors manifestement, on a des tas d'animaux d'une sorte de ménagerie. Ça nous rappelle des choses.
Oui, quand on avait les tapisseries du roi.
Ça nous rappelle les tapisseries. Quelles tapisseries?
Des maisons, des
quelles tentures,
tentures de la maison du roi,
des demeures royales.
Des demeures royales.
On avait également sur le levier, le devant, on disait tout à l'heure, toute une série d'animaux exotiques. Pourquoi, comment?
À cause de la ménagerie.
Du fait de la ménagerie du roi, à Versailles, qui permettait aux cartonniers de se documenter sur des animaux exotiques. Bien. Alors effectivement, on a quoi là?
Un dromadaire.
Bon, il y en a deux. Donc un dromadaire.
Il y a un singe.
Avec un singe sur le dos, oui.
Un cheval.
On a là.
Un cheval.
Ouais.
Avec un monsieur.
Avec un monsieur.
Une sorte de espèce de condor.
Oui, c'est ça, un truc qui fait penser un peu à un condor.
On dirait un lama.
Et puis alors, il y a.
Des poissons.
Plein de poissons.
Il y a un ibis devant le lama.
C'est celui-là.
Non, après.
Ah, ici, vous voulez dire, là. Oui, voilà, oui. Flamand, je ne sais pas trop
comment je le sens. Dans l'arbre, il y a des oiseaux.
Il y a des perroquets.
Il y a plein d'oiseaux.
Il y a
des fruits.
Bien. Donc, l'idée, c'est quoi?
La nature exotique.
Ah, il y a même des ananas.
Donc l'idée, c'est l'évocation d'une nature, mais d'une nature exotique. On est peut-être à Versailles avec les animaux, mais on est transposé quelque part ailleurs.
On dirait qu'il y a
une rose.
Il me semble aussi.
De quoi?
Que le dromadaire et le lama ne se rencontrent pas tous les jours.
Non, oui, c'est évident.
C'est un peu.
Mais à Versailles.
À Versailles, c'était possible.
Tout est possible.
Ouais. Bien. Tiens, on n'a pas parlé d'auteur de carton. Mais là, je vous le demande quand même, vous avez une idée?
Le bras est mort.
C'est fini.
Mais les animaux aussi. je sais plus.
Il peut y avoir plusieurs.
Il peut y avoir plusieurs peintres. On a vu la dernière fois que pour certaines de tapisseries, il y avait jusqu'à 3-4 peintres.
Il y en a qui étaient spécialisés dans les animaux.
Exactement. Dans les animaux, dans la végétation, dans les fleurs, dans les architectures, dans les personnages. Oudry?
Ça peut.
Why not?
Je
ne
sais pas quand est-ce qu'il
est. Oh, je vois que la suivante, j'ai oublié d'enlever la. La légende.
Voilà, on m'a trouvé.
Je me mettrai devant.
C'est une diseuse de bonne aventure.
Ah, une diseuse de bonne aventure.
Oh, c'est pas pour le genre la fuite en Égypte, je sais pas.
Ah, ou la fuite en Égypte?
Comment ça, non?
Ben, ça pourrait, parce qu'il y a un reste. Il y a un gamin qui dort au milieu des.
Oui, il y a un gamin qui dort,
il y a des poules.
Il y a des poules, des moutons.
Oui, c'est très.
Et ils sont partis avec
une sorte de chariot.
C'est un gros berceau.
Oui,
c'est la conquête de l'Ouest.
Attends, tu veux conquête de l'Ouest.
Donc, on aurait. Un chariot berceau. Et alors là, c'est quoi là? Donc, ben, Elvini, on aurait une diseuse de bonne aventure.
Elle vit dans la campagne,
voilà. Bon, on imagine qu'on est dans quelques recoins du Morvan.
C'est ça, oui.
Il y a une pinède.
Un abri toilé.
Voilà, un abri toilé, vous savez, dans le Morvan, on trouve de tout. Et il y a une diseuse de l'aventure, et puis de braves paysans à qui on dit de l'aventure.
Ce n'est pas une paysanne, bien habillée.
C'est la fuite en Égypte, parce qu'il y a un bœuf derrière à gauche.
Ici, là
Derrière,
il y a surtout trois chevaux.
Les trois vaches sont des
chevaux. Pire berceau.
À droite, il y a
un bébé.
Il y a un bébé. Enfin, un enfant. Il y a un enfant au milieu des poules.
Dans un palier. Dans un palier, là.
On l'a mis, on l'a enlevé là pour le mettre là, ouais. Avec un petit agneau et trois poules.
C'est vrai, c'est
la fuite en Égypte. Donc décidément, on tourne autour. Hein. On tourne autour du pot. Hein. Donc une sorte de fuite en Égypte transposée. Végétation méditerranéenne avec des sapins. C'est possible.
Des sapins au sol. Mais il y a quand même tout à fait en haut. On aperçoit les fleurs de lys. Tout à fait en haut.
Tout à fait, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oui, il y a des fleurs de lys, oui. Ah ben, on est dans une fabrique ou des fabriques qui sont royales. Hein. Alors, la suivante, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Bah oui, oui, mais voilà. Bon, je vais donc me mettre devant en vitesse. Donc on passe très vite. Parce que là, vous avez tous les éléments. Bref.
On a tout oublié.
Voilà. Ça peut être la même fabrique, mais qui n'a pas mis la même couleur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir, il y a le même carton, mais on change. C'est de la série, mais avec des variantes.
Ouais.
Il y a différentes choses qui changent.
Il me semble que c'était le bras, non?
Oui. En fait, il n'est pas dans le même sens, Jupiter.
Il est inversé.
Ah oui, c'est vrai, il est inversé.
C'est-à-dire qu'on doit retrouver.
Ils sont prostrés.
Alors là, c'est exotique.
Ça fait penser au grand.
Alors, oui.
Un éléphant.
Donc exotique, vous parlez de gens prosternés, prostrés, peut-être plus prosternés, prostrés d'ailleurs.
Prosternés.
Il
y a un éléphant.
Oh, puis il y a encore des gens prosternés
devant.
On a prosterné là. Il y a un éléphant derrière.
Il y a une dame dans un chariot.
Il y a des animaux aussi.
Des animaux,
le pan n'est pas prosterné.
Le pan n'est pas prosterné. Bah, il a le droit, lui, c'est le symbole de l'éternité. Non. Bien. Alors, c'est qui ce monsieur au centre?
Le roi du Siam.
Le grand Turc.
C'est très curieux. Ça a comme deux yeux, c'est deux troncs.
Oui, c'est vrai.
Très symétrique, très hiératique.
Ça nous rappelle des choses?
Les chinoisettes tout à l'heure.
C'est pareil.
Non, c'est pas tout à l'heure.
C'est
encore une évocation.
On dit toujours que c'est dans une fabrique qui appartient au roi. Alors, voilà. Alors, on termine les dernières. Oui, c'est un cerf.
C'est un cerf qui boit.
C'est un cerf, oui.
Il y a un aigle.
C'est bon, ce cerf qui est près des chiens.
Il y a un aigle devant.
Il y a un aigle là aussi.
C'est la paix, on dirait.
Il y a un aigle, il y a un cerf.
Et sur le toit,
il y a un rapace qui mange un oiseau. Oui, c'est ça. Il y a un rapace qui mange un pigeon. Il y a, ouais. Des chiens. Et puis il y a des chiens.
Il y a des carnages.
Donc qu'est-ce que c'est que tout ça ?
Une scène de chasse.
C'est une scène de chasse pacifique, puisque le cerf n'est pas chassé.
Enfin, les autres, ils sont...
C'est peut-être pas tellement une scène de chasse. Une scène de quel genre, là ? Une scène de nature, une scène rustique, avec des animaux. Puis voilà.
Non,
mais sinon, il n'y aurait pas un aigle. Qu'il y a un aigle.
Bah, les chiens doivent se battre entre eux.
Ah oui, il y a un petit problème, semble-t-il, entre.
Entre deux. Là.
Entre celui-là et ceux-là. Ouais, visiblement, il y a un problème. Et pourquoi ?
Il est sur leur territoire.
Ah oui. Chacun garde son territoire. Très bien. Donc, une scène rustique montrant des chiens qui se. Bagarre dans une basse-cour.
Il y a quand même beaucoup de rapaces qui s'appellent.
Non, c'est simple
pour une tapisserie de qui était cher à faire.
Ouais. Oui, donc c'est un petit peu simple. C'est un sujet un peu. Un peu rustique, un peu trop simple. En plus, il y a un cadre, enfin un faux cadre, etc. Oui, oui. Ça fait beaucoup de choses pour pas grand-chose.
Peut-être
quoi.
Une symbolique.
Ah, une symbolique.
Oui, c'est encore symbolique. Quoi, le tapis en charge qui est.
Allez, on va donner dans du lourd.
Oh là, on va aller dans l'échelle de Mamamouchi.
Encore en Turquie.
Il y a une femme qui se parle.
Ah oui, il y a une dame qui se parle.
C'est la chartreuse de Pâme.
Pas mal.
Alors il y a des cassolets, ils ont pris des turbans.
Ils ont tous des turbans. Oui, mais pas les femmes.
Non, et puis ce qui est curieux, c'est qu'au fond, là, il y a des personnages, on dirait qu'ils sont en train de noter quelque chose.
Ou alors c'est une scène de théâtre.
C'est pas une scène de théâtre. C'est vrai qu'il y a un côté très théâtral.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, il y a une femme qui se pâme.
On retrouve les colonnes, là.
Oui, les colonnes un peu de tout à l'heure, vous savez, chez notre, dans notre toilette, là.
C'est pas le
jugement de Salomon. Ah, le monde Salomon dit... donc la femme qui est la mère de l'enfant...
Oui, parce qu'il y a un patriarche qui tient un enfant contre lui. À droite, complètement, avec le petit chapeau bleu. Il retient un enfant dans ses bras.
En haut. Celui-là ?
Non, à côté.
Celui-là.
Il a un enfant dans ses bras, non ?
Ah bon ?
Il n'y a pas un enfant.
C'est la coiffe de celui qui est dessous.
Oui.
Il tient son
bras. Oui, non. En fait, il n'a pas d'enfant, non. Il a une barbe.
Je retire.
Il a une barbe aussi, mais il n'y a pas d'enfant. Non, il n'y a pas d'enfant. Alors c'est une scène qui serait tirée de quoi ?
Ça pourrait être la répudiation.
La répudiation. Une répudiation, donc à un moment on la répudie, elle s'écroule.
Non.
Une scène biblique.
Oui, moi je pense que c'est
le patriarche avait très biblique.
Oui, moi je trouve ça plutôt biblique, oui.
Donc une scène biblique orientale, mais en laquelle de scène biblique ?
Elle va mettre au monde, je ne sais pas, les douleurs et toutes les femmes autour.
Donc c'est plus une répudiation alors.
Non, c'est un accouchement.
C'est un peu l'inverse.
C'est un accouchement.
Si tu attends un peu, tu vas avoir la
bébé. Bon, bah, écoutez, nous verrons ce qui en est.
Belle couleur.
Ça revient au chinoiserie.
Et puis sa danse. Oui, même chapeau.
Il y a quand même des différences.
C'est inversé.
Oui, les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes.
Pardon, ouais. Alors non, ça c'est une autre tapisserie.
C'est une autre...
Ouais. D'ailleurs, elle est beaucoup moins longue, vous remarquez.
Oui, elle est plus...
Et puis les costumes,
on retrouve la pagode aussi.
On retrouve la pagode, c'est exactement la même chose, mais en sens inverse.
Non, les costumes ne sont pas les mêmes.
Ça fait penser à un même carton utilisé, un peu comme on l'a eu pour le Jupiter de tout à l'heure, mais utilisé en sens inverse.
Non, c'est pas le calque.
Pardon.
C'est pas le calque, les danseurs ont...
Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Oui.
Non, non, les costumes ne sont pas les mêmes.
Les costumes ne sont pas les mêmes, mais c'est quand même très proche.
C'est proche, c'est inspiré.
Les éléments sont les mêmes.
D'ailleurs, regardez.
Il y a les instruments de musique
avec Adam, avec son truc. Les gens avec leurs instruments de musique. Hein. Voilà. Le bonhomme, là, avec son... Hein ?
Son éventail.
Allez, une petite dernière.
Une scène galante.
Néo-fragonard. Ça représente quoi?
Un après-midi dans l'herbe.
À la campagne,
le déjeuner dans l'herbe. Le déjeuner sur l'herbe. Manet avant l'heure.
Non,
un
chien. Enfin,
le
mangeait.
Le chien là.
Oui.
Il est sage.
Mm.
Voilà. Donc une scène rustique, sympathique. Okay. Alors, si vous aviez, maintenant qu'on a regardé une vingtaine de tapisseries, à classer ces tapisseries qui sont très symptomatiques des grands domaines que l'on trouve dans la tapisserie française au XVIIIe, vous auriez à dire quoi ?
Des scènes exotiques.
Il y a effectivement des scènes exotiques.
Des scènes légères.
Des scènes orientales légères.
Antiquité.
Et mythologie. Toutes les scènes qu'on a vues étaient, toutes les scènes liturgiques étaient légères.
Non.
L'effondrement du palais était un peu moins léger. Donc il y a du léger et du lourd. Si je comprends bien.
C'était peut-être pas une scène mythologique.
Tout à l'heure, oui, on était parlé par qui sur une scène biblique.
Une orientalisation.
Donc, on a vu que l'Orient était très important. On a vu qu'il y avait un certain nombre de scènes tirées de l'Antiquité ou de la mythologie, mais qui étaient souvent marquées par une sorte de légèreté.
Oui.
On a vu des scènes un peu plus fortes, peut-être bibliques.
Oui.
D'accord. Quoi d'autre encore?
Don Quichotte.
Alors là, ça allait vers quoi?
Il y a des thèmes à la mode.
Roman courtois.
Oui.
Et puis des animaux.
Des animaux, effectivement.
Et un peu politique aussi.
Et des grotesques aussi.
Oui, vous pensez à quelle tapisserie, par exemple?
C'est la rencontre.
La rencontre qu'on a pris pour une scène de bataille, Celle de Cléopâtre, qui est quelque part derrière une rencontre antique, quelque chose qui pourrait évoquer des événements plus contemporains.
On élargit les thèmes.
Un goût pour l'exotisme aussi.
Alors, on va reprendre tout ça rapidement pour voir un peu, classer, hein, quels sont les grands thèmes que l'on peut voir. Ça, cet abcès que vous voyez là, qui est donc l'abcès des Gobelins, hein, représente l'évanouissement d'Esther. Donc c'est bel et bien une scène biblique. Hein. Vous connaissez à peu près l'histoire d'Esther ?
Non.
Esther était une femme d'origine juive qui vivait à l'époque d'Assuérus. Assuérus était un souverain assyrien qui était très très puissant. Un jour, son premier ministre s'appelle Haman, décide de demander à Assuérus d'éliminer toutes les populations juives qu'il y a sur le territoire de l'empereur. Or, il se trouve qu'Esther est juive. Donc, Esther va avoir vent de ce projet d'Haman, qui donc décide, encore une fois, hein, de faire en sorte que Assuérus élimine la population juive. Or Esther va évidemment tout faire pour éviter ce méfait-là. Ce qui fait que Esther va décider un jour, notamment avec l'aide de son oncle qui s'appelle Mardoché, d'aller voir Assuérus. Elle va donc se couvrir d'une très belle robe, etc. J'ai oublié de dire qu'Esther était la femme d'Assuérus. Important. Elle va donc aller voir Assuérus, très bien, parce que Assuérus était un souverain qu'on n'allait pas voir comme ça, même son épouse Esther. Il n'est pas de celui, c'est que là. Enfin voilà, quand on va voir Assuérus, le grand souverain d'Assyrie, il faut, j'allais dire, prendre rendez-vous. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, Esther n'allait pas voir Assuérus comme ça. Hein. Il fallait, encore une fois, un certain nombre de conventions. Et donc, Esther décide d'aller voir son mari Assuérus, et elle est tellement, comment dire, impressionnée qu'elle va s'évanouir. Et c'est la scène que vous avez là. C'est le moment où Esther vient voir Assuérus pour l'inviter à un repas où elle va lui dévoiler le projet d'amour. C'est-à-dire que la tapisserie royale fait partie d'une tenture. Celle-là doit être la deuxième tapisserie, mais on a deux ou trois derrière, notamment une tapisserie qui monte la scène suivante. Le moment où Esther, qui après s'est évanouie, qui s'est un peu remis, a invité Assuérus dans ses appartements, ainsi que Amant, le ministre Félon. Et quand elle va voir à sa table et Assuérus et Amant, Esther va révéler à son mari, Assuérus, que Amant est en train de préparer un sale coup. Et Assuérus, furieux, va décider de condamner Amant à mort. Alors, ce qui veut dire que Esther, si vous voulez, c'est une des grandes héroïnes de la Bible. Elle n'est pas la seule. Hein. Il y a aussi Judith. Vous savez, Judith et Holoferne, on va parler plusieurs reprises. Hein. Ouais. Mais vraiment, Esther, Judith, c'est deux des grandes héroïnes de la Bible. Hein. C'est-à-dire des femmes qui ont réussi par leur courage, parce que décapiter Holoferne, ce n'était pas simple, parce qu'aller voir Assuérus, même quand on est son épouse, ce n'est pas simple. C'est pas elle qui décide, c'est lui qui décide. C'est lui qui dit, viens. C'est pas elle qui dit, j'arrive. Hein. Donc là, elle force sa porte pour aller le voir. Ça, c'est pas permis. Or, elle le fait. Donc elle est extrêmement courageuse, si vous voulez. Hein. Pour moins que ça, la femme antérieure d'Assuérus avait été répudiée. Donc, si vous voulez, elle est tellement émue que vous, elle s'écroule, mais encore une fois, elle va réussir quand même, parce qu'elle est très belle, c'est très bien habillée, à convaincre Assuérus d'aller dans ses appartements, à ce fameux repas, où, encore une fois, Amant, le ministre Vélon, va être confondu et condamné par Assuérus, à qui Esther révèle ses noirs projets. Donc vraiment, Esther, c'est une figure très importante de la Bible. Je trouve que c'est très important, d'ailleurs, des figures comme ça, quand on sait ce qui s'est passé plus tard, hein, les horreurs, enfin, on va rappeler. Voilà, c'est vraiment une figure merveilleuse. Quoi. Esther, une grande, grande figure de la Bible.
Et Amant est de l'autre côté, mais à gauche.
Alors, Amant doit être un des personnages qui est à droite, je pense. Hein. C'est peut-être lui. Mais je ne sais plus si au moment où Esther vient voir Assuérus, si Amant est là, ce n'est pas certain. Parce qu'elle ne vient que inviter son mari à un repas, vous voyez. Donc, Amant est là où je ne sais plus. Dans le
texte. Et trois personnages, à vous.
Ah ben, si vous voulez, Assuérus est donc un souverain, il est en train de travailler sur les affaires de l'État. Hein.
C'est
les ministres, c'est l'entourage, c'est. Voilà. Hein. Et visiblement, elle force la porte en pleine réunion de travail, si vous voulez. Ça ne se fait pas du tout. Mais Assuérus va, vous le voyez, il est plein d'affection pour elle, hein. Il va. Alors, on connaît le carton à tapisserie, de carton de cette tapisserie, que voilà.
Ah
bah oui. Ça, c'est la peinture.
Jean-François II.
Et ça, c'est la tapisserie. OK. Et vous avez au Louvre la totalité des cartons de Jean-François III pour l'histoire d'Esther. C'est magnifique. Hein, c'est pas mal. Hein. Donc, on voit effectivement qu'il y a, à la manufacture des gobelins au XVIIIe siècle, des grandes scènes bibliques, mais également antiques. Hein. Vous avez tout à l'heure l'arrivée de Cléopâtre à Tars, reçue par Marc-Antoine. Hein. Ça, c'est d'après Charles-Joseph Natoire, qui était un grand peintre, mais également d'ailleurs, directeur de l'école française de Rome pendant un temps. Donc, il a eu le temps de voir des lions comme celui que je vous évoquais à droite. Hein. Et là aussi, on a le carton correspondant, que voilà. Hein, vous voyez, c'est intéressant, une fois, on a les deux. Donc, vous voyez la grande histoire, hein, qu'il s'agisse d'une grande histoire biblique, hein, ou alors de grands moments de l'histoire antique, elle peut faire l'objet de tapisseries, même s'il y a toujours derrière, vous le remarquez, c'est un peu nouveau, une dimension amoureuse. Hein. C'est l'amour d'Esther pour Assuérus, c'est l'amour de Cléopâtre pour Marc-Antoine et l'inverse. Hein. Donc il y a une dimension historique, mais toujours une légèreté plaisante derrière, même pour des scènes importantes comme celle d'Esther et de Assuérus. Et puis il y a effectivement une série de tapisseries, tout autant mythologiques, ou du moins antiquisantes que la précédente, hein, mais plus légères, vous l'avez remarqué. Hein. Donc là, on quitte les grands sujets pour aller toujours vers l'Antiquité, mais des sujets plus plaisants. Là, en fait, ça n'est pas Vénus et Mars, c'est Vénus et Vulcain. Vous savez que Vénus est la mère d'Énée. Or, Énée, c'est quelqu'un qui va devoir fuir Troie, qui va faire tout un périple, l'Énéide en Méditerranée, hein, jusqu'à l'Italie. Et vous savez que c'est lui qui va fonder Rome. Enfin. Il va faire le premier sacrifice sur ce qu'il donnera plus tard. Bien. Donc il est né quelqu'un qui a vraiment eu un périple extraordinaire. Et la mère d'Aîné, c'est Vénus. Et Vénus, pour aider Aîné, a décidé d'aller voir Vulcain, qui est son mari légitime, pour qu'il prépare des armes pour Aîné. Donc là, c'est Vénus qui vient voir Vulcain pour lui demander des armes pour son fils aîné. Et là aussi, on a le carton. Que voilà. Pas bouché. OK ? Alors après, on a vu toute une série de ces tapisseries à alentour qui, quelquefois, représentent des scènes. Là, c'est Amour et Psyché. Hein. La scène, il se trouve que l'amour Cupidon, Eros, comme vous voulez, a eu notamment comme épouse Psyché, mais la condition avait été que Psyché ne le regarde pas. Mais une nuit, n'en tenant plus, parce qu'elle dormait avec quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Et c'est bien, donc, finalement, on se lasse. Et donc, une nuit, elle a décidé, alors que lui dormait, d'allumer une petite lampe pour voir à quoi elle ressemblait. Le problème, c'est qu'une goutte d'huile touc est tombée sur Cupidon, enfin, l'amour, Eros, et il s'est réveillé. Voilà. Donc, l'interdit avait été levé. En tout cas, c'est ce qui est présenté sur cette tapisserie à l'entour, d'après Boucher. Et à l'entour toujours, mais cette fois, quelque chose effectivement qui au centre ne montre pas de scène, mais toujours avec un thème mythologique, ça c'est la tenture des portières des dieux, qui figure à la fois Jupiter, mais qui est également le feu. Alors, il y a les quatre éléments, et on a vu qu'on avait l'équivalent, mais inversé, et dans une autre couleur. Vous voyez qu'on peut faire un peu à la demande, hein, des couleurs, des choses un petit peu différentes. Et c'est dans la même catégorie qu'on trouve ces tapisseries du mois d'avril au mois de septembre. Alors, je vous montre un peu le détail des figures. Hein. Vous avez en fait ici Vénus avec l'amour hein, pour le mois d'avril. Ça, c'est Apollon, c'est pas Diane. Hein. Là, vous avez Mercure. Là, vous avez Jupiter. Là, vous avez Cérès. Et au bout, c'est à nouveau Vulcain. Là, j'avais caché, mais c'est Armide. Alors ça, c'est important parce que ça, vous ne l'avez pas forcément vu, mais il y a une mise en scène. Si vous voulez. Ce que vous avez là est en fait une tapisserie qui appartient à la tenture des fragments d'opéra. Parce que vous avez là quelque chose qui s'inspire des machineries des opéras, qui quelquefois a été extrêmement spectaculaire. Hein. Et donc, Coypel a réalisé une tenture sur ces thèmes-là, et là, c'est d'après l'opéra de Lully, enfin, il y a Lully et Gluck qui ont fait chacun une armide, hein. Mais je crois que là, c'est l'armide de Lully, ce qui va vraiment être bonne, et donc, vous avez la destruction du palais d'Armide. Vous savez, Armide, alors là, on n'est plus du tout ni dans l'Antiquité ni dans la Bible, on est dans la Jérusalem délivrée. Vous savez, c'est un grand texte poétique, qui évoque les croisades, la première croisade, hein, et toute une série de chevaliers occidentaux qui vont aller en Orient. Alors, on a notamment un qui s'appelle Renaud, qui est un preux chevalier, qui va aller en Occident. Le problème, c'est qu'il va tomber amoureux de la belle Armide, qui est une princesse sarrasine. Enfin, il va tomber amoureux, mais enfin, il y en a tellement de princesses sarrasines qu'elle ou d'autres. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'Armide tombe amoureuse de Renaud. C'est embêtant, parce qu'une sarrasine tombe amoureuse d'un chrétien, ça va pas. Et pour, j'allais dire, confirmer l'amour qu'elle a vis-à-vis de Renaud, et pour que Renaud, à son tour, soit absolument épris d'Armide, elle va décider de l'enchanter, parce qu'elle est plus ou moins magicienne. Elle va essayer d'enchanter Renaud, elle va créer pour lui une sorte de jardin extraordinaire, de palais incroyable, et elle va le mettre sous son charme, et Renaud va être complètement... jusqu'au jour où il arrive devant un miroir, et qu'il voit sa propre image, et soudain il se rend compte qu'il est ensorcelé. Et le charme va s'arrêter, il va partir, voyant que finalement cet amour qu'il avait pour Armide n'était qu'un charme, un ensorcellement. Et de colère, Armide, qui est dépité, si vous voulez, qui voit que l'amour que Renaud a pour elle n'était que le fruit de son propre ensorcellement, elle va décider de détruire son propre palais, c'est ce que vous avez là. Donc celle que vous voyez en haut, c'est Armide, enfourchant un monstre, et est en train de détruire le palais qui était le sien, qu'il avait construit, pourrait-on dire, pour Renaud. Et là aussi, on a le carton correspondant. Extraordinaire tableau du musée de Nancy, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un tableau incroyable, incroyable. Un tableau tout à fait spectaculaire. Très belle chose, assez stupéfiant. Ça, vous ne l'aviez pas vu, c'est une femme de La Fontaine. Parce que ça, c'est important aussi. À côté de ces scènes bibliques, de ces scènes historiques de l'Antiquité, ou des amours des dieux, à côté de scènes tirées éventuellement de grands récits médiévaux, comme la Jérusalem délivrée, il y a également, on va avoir, arrivé au XVIIIe siècle, un goût pour le rustique. On avait un peu vu déjà à la fin du siècle précédent, rappelez-vous les enfants jardiniers, hein, mais qui là va vraiment s'exciter, si j'ose dire. Hein. Et ça va notamment passer par un grand goût pour les fables de La Fontaine. Et c'est la fable là de la lys et de sa compagne. Vous connaissez peut-être l'histoire. Hein. C'est une lys, c'est une chienne de chasse qui va avoir des bébés. Hein. Et il se trouve qu'il y a une lys qui est enceinte. Et qui va avoir de ses copines en disant « Je suis enceinte, mais je ne sais pas où accoucher, où est-ce que je peux accoucher ?» Alors, l'autre, sa compagne dit « Écoute, va dans ma hutte, là, moi ça va, tu y vas, puis là. » Et elle va donc accoucher, puis alors l'autre revient une semaine après, en disant « Bon, ben, l'autre est accouché, je peux peut-être revenir chez moi. » Puis elle dit « Ben non, mes enfants sont petits. » Bon. Elle revient qu'un jour après, « Bon, ben là, je peux peut-être reprendre mon... » Elle dit « Ben non, là, déjà, ils sont un peu grandis, ils sont encore petits. » Bref, elle vient comme ça 4 ou 5 fois, puis au bout d'un moment, l'autre, qui a pris le logement, et dont les enfants ont grandi, dit « Ben écoute, fous le camp, c'est moi qui vis maintenant à la place de toi. » Autrement dit, c'est... Là, vous voyez donc la chienne qui a été bernée, et celle qui, avec ses enfants, a pris la place de l'autre. Donc c'est évidemment une fable, La Fontaine, d'après Ésope, mais qui est pour Oudry, puisque c'est bien d'après Oudry qu'il s'agit, l'occasion de proposer une scène rustique. Et là, vous voyez que cette tapisserie est une des scènes de Beauvais. Hein. Beauvais qui va devenir un deuxième centre, très important au XVIIIe siècle, hein, qui est dès le XVIIe, qui au XVIIIe va prendre un élan considérable, et qui va être une sorte d'alter ego des Gobelins, mais évidemment de manière beaucoup moins... considérable, si bien, mais Beauvais va devenir une sorte de deuxième centre de la production tapissière en France. Et puis parmi ces scènes rustiques, j'allais dire qu'ils montrent des scènes de la vie quotidienne, pittoresques, il y a, là vous le savez déjà, la tenture des chasses de Louis XV, là il n'est plus question de mythologie, soit autre, c'est les chasses de Louis XV. On est bien loin d'Alexandre le Grand, hein, à l'époque de Louis XIV. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Hein. Vous voyez comment les thématiques ont complètement glissé vers tout à fait autre chose. De la même manière, dans cette veine pittoresque, il y a le goût pour Don Quichotte, hein, que l'on voit dans 2 tentures. Cette tenture de Beauvais, réalisée d'après les cartons de Natoire, ou bien cette autre tenture qui, là, a été faite au Gobelin. Ça, c'est l'histoire de la tête enchantée. Un jour, on fait croire à Don Quichotte qu'un buste en bronze qui est sur une table est capable de parler. Il va y avoir une affaire plus ou moins de ventriloque, etc. Hein. Vous voyez que les dames sont tout à fait surprises de voir qu'un buste, qui est une statue, parle, parce que c'est quelqu'un qui fait semblant de faire parler le buste. Et donc Quichotte, évidemment, tombe dans le panneau. Enfin, vous imaginez la suite. Donc ce genre de thème complètement pittoresque, qui nous amène extrêmement loin de la grande histoire, des grands sujets, hein, c'est quelque chose qui va petit à petit s'imposer au XVIIIe siècle. Hein, avec aussi des scènes comme ça, c'est-à-dire tirer des fêtes italiennes, une collation, d'après François Boucher, ça ne présente rien d'autre que des gens qui s'amusent à pique-niquer. Voilà. On est au XVIIIe, on voit bien l'évolution des thèmes, on est bien loin du siècle Louis XIV. Ça, nous sommes carrément devant les Tuileries. Parce que ce que vous preniez pour des remparts de quelques cités, c'est les Tuileries. D'ailleurs, si vous regardez les Tuileries aujourd'hui, vous avez toujours ce groupe sculpté qui est là. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les chevaux de Marly. Hein. Il y en a 4 hein, sur la place à Concorde, si vous voulez. Hein. Ben, ça, c'est l'entrée des Tuileries. Hein. Alors, le bâtiment qui est là-bas dans le fond à droite, je ne m'explique pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est le pavillon central de l'ancien palais des Tuileries qui barrait le fond du... Ouais. C'est possible, hein. Mais bon, je n'ai pas contrôlé. En tout cas, vous avez l'ambassade de Mehmed Efendi qui vient ici, qui est effectivement le représentant du Grand Turc,
qui est donc reçu. Alors, il y a plein de monde, évidemment, l'armée. Enfin, bref, c'est une ambassade. Parce qu'effectivement, on l'a dit, hein, le turc est à la mode. Alors, on présente ici Van Loo dans une tenture. La tenture des costumes turcs représente ce réveil de la sultane, ce qui est, alors, est très occidentalisé parce qu'on ne connaît pas si bien que ça la Turquie. Et puis la Turquie, elle est quelquefois aussi très occidentalisée. Hein, quand on dit Topkapi aujourd'hui, il y a des éléments aussi très occidentaux, si vous voulez. Hein. Donc on connaît mal la Turquie, mais d'un autre côté, la Turquie est occidentalisée, ça nous donne des sortes de turquerie occidentale, comme ça, ou bien aussi d'ailleurs, comme ça, sauf que là, ce n'est pas une turquerie, c'est une russerie. Ce que vous avez là, c'est réalisé d'ailleurs à Beauvais, un élément des jeux russiens de Le Prince, qui montre évidemment une diseuse d'aventure. Hein. Donc toujours une scène pittoresque, mais orientale. Hein. Le pittoresque local plaît, la fontaine, par exemple, les chasses de Louis XV, mais aussi le pittoresque oriental. L'Orient s'invite, si vous voulez, ce qu'on a vu également dans les chinoiseries. Et c'est amusant parce que là, vous voyez réalisé fin 17, début du 18e, cette tapisserie-là, qui représente en fait l'histoire de l'empereur de Chine, une Chine assez, là aussi, spéciale. Hein. Mais cette tenture qui a été réalisée à Beauvais, hein, fin 17 et 18e, bientôt a été passée de mode. Et il a fallu faire une nouvelle tenture plus à la mode, toujours chinoise, parce que ça marche la Chine à l'époque, pas qu'aujourd'hui. Et on va demander à Boucher de faire cette tenture-là avec la danse chinoise, réalisée aussi à Beauvais, mais plus tard, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que on a vu tout à l'heure que la même danse chinoise avait été réalisée, mais dans l'autre sens, à Aubusson. Aubusson, en fait, dont la fabrique existe dès une période très tôt, on pense que dès le XVIe siècle, hein, en fait, la tapisserie Aubusson. Mais enfin, c'est vraiment deuxième moitié du XVIIe et XVIIIe qu'Aubusson va très bien fonctionner, et va quelquefois fonctionner, si vous voulez, comme une sorte d'écho, on va dire, provincial aux productions des Gobelins, hein, donc, ou de Beauvais. Et donc, on fait Aubusson ici, on reprend le carton de Boucher dans l'autre sens, de manière plus courte et avec, peut-être vous le sentez quand même, hein, une qualité un peu plus voilà, limitée, on va dire. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez là, toujours fait Aubusson, un autre exemple de la même tenture chinoise après Boucher, mais là aussi un peu différente du prototype réalisé à Beauvais. Et je vous montre le carton du Boucher correspondant, qui est conservé à Besançon, pas très loin d'ici, hein, mais qui est en fait l'esquisse pour le carton. Boucher n'a pas eu le temps de faire le carton complet, il a fait l'esquisse, le carton a été fait par un certain Lebrun, et voilà le carton en question. Et puis on termine effectivement par ça, qui est d'après Desportes, hein, qui était avec Oudry, l'autre grand animaliste, fin 17, début 18e. Hein, et vous avez donc là la tenture une pièce de la tenture des Nouvelles Indes, des Indes dont on ne sait pas très bien si elles sont américaines ou orientales, hein, mais qui mélangent effectivement tous les animaux qui, à la ménagerie de Versailles, pouvaient paraître comme particulièrement exotiques.
Il est indiqué le chameau et pas le dromadaire.
Pardon ?
Il est indiqué le chameau et pas le dromadaire.
Mais
il faisait pas la différence à l'époque encore.
Oui, cette baisse est intitulée effectivement chameau, mais parce que chameau dromadaire, lama avec.
Oui, lama avec des pattes aussi.
Voilà, c'est ça. C'est parfait. De lapin. Effectivement, il y a une. Et d'ailleurs, on a bien vu comment les architectures chinoises ou turques étaient parfois un peu aléatoires. En tout cas, vous voyez qu'il y a vraiment un changement radical des sujets de manière la
même. Il faut savoir aussi que les peintres n'ont jamais mis les pieds en Inde ou en Asie.
Alors, il s'était, Boucher, par exemple, s'était beaucoup documenté. Hein. Il avait regardé toute une série de rapports de jésuites qui étaient allés en Chine, voilà. Mais vous avez raison, il n'y était pas allé. Donc, on traduit ça de la manière que l'on peut. En tout cas, l'Orient est à la mode. Donc, on voit en tout cas comment on continue les grands thèmes. On travaille la mythologie de manière plus légère, plus galante, plus décorative, les peintures alentour, les tapisseries alentour. On donne dans le pittoresque, aussi bien le pittoresque que, j'allais dire, littéraire, Don Quichotte, ou le pittoresque tout court, hein, les fêtes italiennes de Boucher, où on voit un pique-nique finalement. Et puis alors, on en met un coup, si je veux dire, du côté de l'exotisme, de la Russie jusqu'à la Chine, en passant par la Turquie. On voit bien que les thématiques changent totalement au cours du XVIIIe siècle par rapport à ce qu'on avait vu au XVIIe. Et ben voilà. Alors, on se retrouve dans 15 jours pour conclure ce cycle-là.